Interview.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Diwa 107.5 www.rdiwa.fr et je m'appelle donc Gis. Je me suis proposée à interviewer Louis, lui qui est plutôt de l'autre côté du micro d'habitude, qui s'intéresse aux autres, qui va creuser, qui va questionner et j'ai eu envie de le faire passer de l'autre côté, de l'autre versant du micro. Donc là où peut-être il n'est jamais allé. Est-ce que Louis, d'ailleurs, tu as déjà été interviewé ?
Eh bien, bonjour d'abord. Sur moi-même, pas forcément. J'ai dû être interviewé à deux reprises sur RDIWA et donc je donnais certaines informations sur RDIWA, mais ce n'était pas spécifiquement sur moi.
D'accord. Et là, tu as reçu comment, du coup, cette proposition de ce portrait sur Louis ?
Bah écoutez, moi je répondrai ce que je réponds à tous les gens qui se font une parano, savoir s'ils doivent se mettre en avant sur Facebook ou dans l'infosphère. Je n'ai rien à cacher, je n'ai pas de secret. Pourquoi me cacherais-je alors que je suis effectivement un homme public ? Si j'étais pervers et que j'avais des habitudes dont je ne serais pas fier, peut-être me cacherais-je, mais ce n'est pas le cas.
Du coup, ça t'a plutôt fait plaisir, ce moment qui va t'être consacré pour plus peut-être creuser des questions sur toi, sur ta vie, sur ton travail, sans parler de tes côtés pervers, mais juste vraiment un intérêt sur ta personne, comme tu as l'habitude plutôt d'être de l'autre côté.
Ça me fait plaisir, ça me fait un petit peu peur même. Être un homme public, c'est pas facile, d'autant plus que je suis un homme public qu'il est difficile de m'approcher, ou en tout cas je ne me laisse pas forcément approcher de façon intime par beaucoup de gens, puisque je connais tellement de gens que je leur donne une fraction de moi qui est public. Donc le fait est que si toi tu me demandes de me présenter de telle manière à dire un peu ce que je suis, c'est impressionnant, mais je joue le jeu sans aucun problème. Je te remercie, même en fait, quelque part ça m'honore, je suis flatté.
Oui, c'est plutôt en plus dans ce sens-là, ça part plutôt de là, vraiment un intérêt avec des questions plutôt douces. Voilà. Et, je voulais tout d'abord parler un petit peu de ton travail à RDIWA et je me suis dit que ça intéresserait peut-être aussi les auditeurs d'en savoir un peu plus sur cette radio. Comment ce projet s'est monté, depuis combien de temps elle existe, voilà, nous présenter un petit peu cette maison radiophonique.
Eh bien, ça remonte à 2007, quand j'ai commencé à faire un peu de radio à titre bénévole à Radio Saint-Ferrol, une émission de pop musique qui s'appelait à l'époque Face B, qui est l'ancêtre de l'émission de musique que je fais actuellement qui s'appelle Pop en Stock. Donc je me suis formé pendant 3 ans à Radio Saint-Ferrol, toutes les semaines et très fiablement en fait. Sur 3 ou 4 ans, j'ai dû rater une émission. Jusqu'au jour où, en 2009, c'était la dernière procédure d'attribution de fréquence globale par le CSA. C'est-à-dire que, d'après ce qu'ils disent, ils veulent passer éventuellement un jour à la radio numérique. Donc, ils voudraient abandonner, d'ici une dizaine d'années, la FM. Donc, c'était la dernière fois qu'ils allaient procéder à une distribution de fréquence. Avoir une fréquence, c'est vraiment pas facile. Donc, réunion de la dernière chance. Parce que si on n'avait pas pris cette fréquence, il n'y aurait plus eu jamais de radio dans le Diwa, parce que ça aurait été trop compliqué de passer directement au numérique. Donc ça, c'est en avril-mai 2009 à peu près. Et là, dans cette réunion avec un certain nombre de gens qui étaient intéressés par ce projet, je rencontre Baptiste Lefort, que je ne connaissais pas. Baptiste Lefort qui avait déjà tenté préalablement de faire une radio et son projet n'avait pas été retenu par les CSA. D'un commun accord, on dit « ouais, ok, on prend le projet ». On y va. Après, on a rassemblé autour de nous assez rapidement un certain nombre de gens qui étaient intéressés par le projet. On a fondé une association dans l'été 2009. On a commencé à réfléchir aux considérations techniques, comment faire, et à monter un dossier pour le CSA, qui est un gros dossier pour mériter cette fréquence. Concomitamment à ce genre de projet, il faut toujours chercher de l'argent, donc commencer à lever des adhésions. Dès la première année, on a eu déjà pas mal d'adhérents pour financer un petit peu les premiers besoins. Et de fil en aiguille, d'enthousiasme en enthousiasme, nous avons fini par débuter la diffusion sur l'infosphère, printemps 2010 peut-être, début des émissions de RDIWA sur Internet. L'équipe se structure, des nouvelles émissions commencent à venir. et on commence à mettre en place des interviews. Ce dont je suis le plus fier dans la radio, des déambulations, ce qui sont des reportages un peu plus ambitieux. Et enfin, 25 novembre 2011, début de l'AFM, c'est qui nous permet d'avoir un modèle économique qui nous permette de vivre. Parce que c'est parce qu'on a une fréquence FM que nous avons de l'argent par le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Les web radios, malheureusement pour elles, n'ont aucun accès à des financements de quelque sorte que ce soit, public en tout cas. Après du 25 novembre 2011 au 25 juin 2013, l'aventure n'a fait que croître et embellir. On a lancé ce qu'on appelle les studios mobiles. Là, on en doit être à une vingtaine d'émissions musicales produites en interne et une vingtaine d'émissions thématiques et des échanges de programmes. On a au moins une quinzaine d'émissions qui sont exportées et 7 à 8 qui sont importées. Voilà, le tableau de la radio, ça te suffit ou...
Oui, une grande part d'interview aussi pour toi, en faisant vraiment principalement à toi, donc c'est la grande partie d'intervieweur, et je crois qu'aussi la musique a une grande place dans ta vie personnelle, et ce que tu y mets aussi dans la radio. Je voulais savoir aussi si c'était toi qui t'occupais principalement de la programmation sur Radio Diwa, comment tu t'y prenais, enfin voilà, parler de toute cette partie musique et toi.
D'abord, je voudrais repréciser une des raisons du succès, puisqu'on peut parler de succès de RDOA, c'est effectivement l'extrême complémentarité entre Baptiste et moi, à savoir qu'on ne se marche jamais sur les pieds, puisque je m'occupe de la radio en tant qu'entreprise, puisque j'ai fait, il fut très longtemps, une école de commerce. Je m'en suis rarement servi, mais en ce moment, ça m'a servi pour avoir une vision économique de cette association, puisque, pour faire simple, on en est déjà à 60 000 euros de budget l'année dernière, c'est déjà pas si mal que ça. Et Baptiste, lui, s'occupe de la radio. Donc, il gère les contraintes horaires, la programmation des émissions, les bénévoles, le lancement des émissions, l'interface de la radio, la communication sur Facebook, mettre en place le design. Enfin, voilà, toute cette partie. Et moi, c'est plutôt la partie entrepreneuriale. Mis à part ça, Dieu merci, je fais encore un peu de radio. Donc, je fais mon émission de pop musique anglo-saxonne qui s'appelle Pop en Stock. Et je fais aussi un certain nombre d'interviews. Je suis pas le seul, faut pas dire ça. Baptiste en a fait beaucoup, Lily en a fait beaucoup, Yves en a fait beaucoup, Gwen en a fait quelques-uns, Thaïs en a fait quelques-uns, Ismo en a fait, Toff en a fait. Enfin, on est toute une tripotée à avoir fait des interviews. Mais il est un fait que j'en ai fait un peu plus que tout le monde parce que pour moi c'était très important. Car les interviews, c'est vraiment ce qui nous permet d'assumer notre mission essentielle de donner la parole aux gens. Qui que ce soit qui a quelque chose à dire, nous téléphone, vient nous voir et nous dit « voilà, je voudrais parler de cela ». Et là, que ça soit daté pour un événement ou que ce soit d'ordre général, sans événement particulier, eh bien nous faisons un interview qui dure entre, grosso modo, les plus courts font 10 minutes mais ils sont peu nombreux, jusqu'à 50 minutes, ils sont peu nombreux. En général, ils font entre, je sais pas moi, 15 et 30 minutes. Et on en est à 478 interviews produites depuis 2010, ce qui est beaucoup. Et je suis très fier de ces interviews. Ils ne sont pas tous très bons, c'est sûr. Il y en a qui sont même plutôt mauvais. Mais grosso modo, ils sont toujours très informatifs. Ils ne sont pas militants. C'est-à-dire que nous sommes dans l'écoute d'autrui. Nous n'avons pas de message à faire passer en particulier, ou rarement en tout cas. Donc moi, je suis vraiment très fier de ces interviews. Il y en a certains qui pourraient passer sur France Inter haut la main, voire Arte Radio, qui sont encore plus sélects.
D'accord, donc on parlera peut-être de la musique un petit peu plus
tard.
Ah
oui, tard, c'est vrai,
que...
j'ai oublié oui. L'histoire de la musique.
Mais là, je voudrais justement tirer ce fil d'interview oui. Que tu considères plutôt satisfaisante ou alors très mauvaise. Je veux justement appuyer un petit peu là-dessus, essayer de gratter. Qu'est-ce qui pour toi est une interview satisfaisante ou vraiment il y a eu des... C'est par rapport aux questions qui ont été plutôt pertinentes, à l'échange plutôt humain, à une belle écoute de ta part, à un intérêt par rapport vraiment au sujet. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'interview ratée et de la belle interview?
Les cinq, mon capitaine. Tu as tout résumé de façon synthétique. C'est-à-dire, effectivement, d'abord, il y a le sujet qui intéresse plus ou moins. Ensuite, le contact avec la personne qui est plus ou moins bon. Ensuite, je ne suis pas quelqu'un de stable dans le sens où je peux être excellent comme je peux être médiocre. Des fois, je peux être même pas bien disposé. Donc, ça joue aussi. Le fait qu'on travaille beaucoup, on peut être fatigué, des fois on est un peu speed, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'un interview est bon? Je pense qu'on le sent. On le sent que quand la personne parle en face de soi, on la suit d'abord. Et puis les questions viennent naturellement. Parce que la personne d'abord assume sa partie, c'est-à-dire qu'elle répond aux questions sans s'interrompre trop rapidement. Par exemple, là tu me poserais des questions, je répondrais par oui. ça te mettrait beaucoup dans la difficulté parce qu'il faudrait que tu relances souvent et pour peu de résultats. L'idéal, c'est des gens à qui tu poses des questions et qui sont partis. Alors évidemment, s'ils ne s'arrêtent jamais, là, il faut savoir aussi les interrompre. Mais ça arrive peu, ça.
Justement, cette difficulté aussi à être dans une écoute et de ne pas interrompre. Alors que quelqu'un est vraiment parti, tu poses une question et quelqu'un part vraiment loin et tire. Et tu perds de vue ta question. Du coup, après, à rattraper aussi. C'est tout un jeu aussi très subtil, humainement aussi, selon en plus qui tu as en face de toi. Ça peut être aussi impressionnant d'être là. Tu parlais au tout début que tu étais impressionné d'être interviewé. Mais d'être de l'autre côté, c'est aussi un moment où faut être axé, en même temps ouvert. Il y a vraiment quelque chose, voilà, de ne pas perdre son centre et en même temps de laisser l'autre aussi se porter par rapport aux questions qui peuvent vraiment plus lui faire voir des questions qui ne s'étaient jamais posées. Et du coup, voilà, c'est peut-être aussi difficile de le ramener ici, là. T'as souvent eu des problèmes de cet ordre ?
Il y a de toute façon, même dans les meilleures interviews, des moments de pure terreur pour l'intervieweur. Lorsque effectivement il sent que le débit de la personne interviewée commence à se tarir et que on ne sait absolument pas où est-ce qu'on pourrait rebondir parce que en fait on sait pas, souvent les sujets on les découvre pratiquement sur le moment, on prépare rarement les interviews hein. C'est vraiment la personne arrive, elle nous dit bon, on va parler de ci, on va parler de ça et donc hop, on y va. Des fois moi, je prépare un petit peu, je demande des dates, des coordonnées, à qui je m'adresse, etc. avant l'interview pour que je puisse faire un petit topo introductif. Mais il y a effectivement des moments de pure terreur, on ne sait pas très bien comment gérer la situation. Mais bon, d'abord le métier rentre petit à petit, hein, parce que les premières interviews que j'ai faites, j'étais très mauvais, heureusement que je remontais derrière. Hein, je ne savais jamais quelle question poser. Il faut dire aussi qu'il y a le montage, hein, ça c'est vrai. Moi je triche un peu, c'est-à-dire que je bafouille, c'est un fait. Et donc, il m'arrive d'enlever tout ce qui ne me sert pas, ce que je fais aux gens que j'interviewe. Hein. Je passe entre 2 à 3 heures de montage par interview, hein, faut le savoir, parce que j'enlève tous les annonnements, les bêlements, les « e », les trucs qui servent à rien, les trucs illogiques. Bref, chaque interview me demande 3 heures de montage au moins. Il n'y a aucun interview que je fais direct comme ça. Et pour répondre à ta question de savoir si c'est facile de récupérer quelqu'un qui est hors sujet ou qui s'est barré trop loin, ben je dirais que des fois il faut savoir être un tantinet impoli, en tout cas arrêter la personne. Je dirais que le plus flagrant c'est pour les hommes politiques. Les hommes politiques ou ceux qui s'intéressent à la politique sont des tchatcheurs nés. Ils ont l'habitude de s'exprimer, ils ont l'habitude qu'on les écoute, d'avoir de l'importance. C'est un vrai type de communication et là, on souhaite qu'ils restent dans le cadre du sujet. À ce moment-là, on les laisse en espérant qu'ils ne vont pas en parler plus que de raison. Mais ceci dit, pour les interrompre, bon, on les interrompt quand même. Voilà, on dit « Oui, mais alors, vous venez de dire que… » Enfin, il y a quelques petits trucs, quoi. Où...
Oui, alors justement, Louis, j'aimerais qu'on passe à ce côté musical. Et est-ce que, tout d'abord, tu aurais un choix de musique qu'on pourrait écouter, là, interstice ?
Un interstice musical ? Oui. Eh bien, écoutez, oui, je peux vous mettre une chanson de Dan Sartain qui s'appelle « Shenigans ». C'est un groupe de rock américain, un peu teigneux, mais assez mélodique. Et j'adore la voix du gars, Dan Sartain. Et puis, il a une toute petite moustachette. Et or, en ce moment, juste pour me donner un genre, j'essaie de me faire pousser une moustache. Et j'ai trouvé que ça m'a encouragé à le faire, parce qu'il avait une belle moustache, toute fine, hein, pas une énorme moustache de pêcheur.
In the clowns in, 'cause it makes it easy when I stick the knife in. And I hate to be the boy to burst your bubble, but you're the only one that got you in this trouble. And your shenanigans has cost you everything, and now your pretty face don't mean a thing. Your shenanigans has cost you everything, and now all of your charms won't buy you anything. Well, I'm not the guy with all your answers. Just bring on the virgins and bring out the dancers. Well, I wouldn't. not gonna give you another chance. You get me on a string, well you can watch me dance, dance, dance. And your shenanigans has cost you everything. And now your pretty face don't mean a thing to me. And your shenanigans has cost you.
Alors, pour en venir à la musique, qu'est-ce que tu veux savoir sur la musique et moi, par exemple ?
Oui, la musique, je sais que c'est... Enfin, personnellement, on en avait un petit peu parlé, que la musique est importante pour toi, que tu adores danser. On a justement dansé un petit peu là avant l'interview pour un petit peu se détendre. C'était très agréable. Et du coup, je me demande tout ce que ça peut t'apporter. Je te vois comme quelqu'un de très dynamique, parfois un peu surexcité aussi. Enfin, vraiment, quelqu'un très solaire, d'éclatant, de rayonnant. Et la musique, c'est aussi ce symbole-là, de la joie, de l'extraversion. Est-ce que ça va aussi avec ton tempérament ? Est-ce que tu trouves quelque chose comme ça, ou qui est plutôt en osmose avec ça, qui est plutôt rayonnant et palpitant ? Ou alors, est-ce que tu trouves aussi quelque chose, un équilibre qui peut un petit peu t'apaiser dans la musique aussi, canaliser toute cette énergie que je sens et qu'on sent en toi pour tous les gens qui ont pu même juste apercevoir.
Mais je te remercie pour tous ces compliments. Là, pour les auditeurs, je suis en train de rougir. Là. Je vais m'en remettre quand même. Donc oui, effectivement, la musique, moi, ça fait depuis l'âge de 15 ans où mon beau-frère, à l'époque, m'avait offert sa vieille chaîne. Il m'avait offert Ella Woman des Doors, que j'étais saisi, mais dans le sens pétrifié par un vrai choc avec le rock'n'roll, effectivement, de type anglo-saxon. Je suis même un peu snob parce que j'ai du mal avec la musique franchouillarde. Hein. On est obligé de mettre un certain nombre de quotas sur notre radio de musique française et personnellement, j'ai renoncé. Mais bon, la musique, en fait, ça me fait vibrer tout simplement. Quand j'écoute un bon morceau de musique, je vibre, hein, je le sens. Et puis, je suis addict. Je passe à peu près... Là, ça s'est un petit peu calmé parce que j'essaie de passer un petit peu autre chose. C'était même un peu pathologique. Mais je passais, je sais pas, entre 1 à 3 à 4 heures par jour, samedi, dimanche compris, à télécharger illégalement et sans le moindre regret de la musique pour préparer mes émissions. Ça veut dire trier, classer, jeter, choisir les morceaux, les mettre par thème, etc. Je suis un véritable accro. Depuis 15 ans, j'en ai 49. Donc ça va faire 50 moins 15, ça fait combien ? 35, ça fait 34 ans que je suis un acharné de recherche musicale. J'ai une banque de données chez moi, je ne vous raconte pas. Je sais même plus ce qu'il y a dedans tellement j'en ai. Enfin bon, mais ceci dit, j'ai besoin de découvrir de la musique, non seulement pour mon émission et puis pour mon propre équilibre. Enfin, dans ma voiture, j'ai mis un autoradio avec une clé USB qui me permet de continuer à travailler. Dès que je sors de la radio, je vais dans ma voiture et je zappe de morceau en morceau pour voir ce que je vais mettre. Enfin bref, je vis en permanence de la musique. Ce qui pourrait effectivement, je le crains, expliquer mon côté un peu surexcité, car à force d'écouter à haute dose du rock'n'roll, il est possible d'envisager que ça puisse m'affecter au point de me rendre un petit peu nerveux. Voilà. Mais je vous dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ma nervosité, il n'y a pas que le rock'n'roll. Voilà. Et en plus, pour en terminer avec la musique, donc mon émission est effectivement la première émission de RDWA, hein, historiquement, elle date de 2007. Et puis, autre chose, tu l'as dit aussi, c'est que j'adore danser. J'adore, mais j'ai jamais eu la prétention d'en faire un métier, ce qui fait que j'ai jamais eu besoin de faire des efforts, des assouplissements, de rentrer dans une rigueur. Non, j'ai fait des milliers de prestations scéniques anonymes lors de milliers de teufs, où je suis souvent et le premier ou le seul, voire le dernier à danser. Et en plus, non seulement je sais danser seul, mais je sais danser le rock'n'roll. Je me suis même posé la question, il fut une époque, de faire un atelier de transmission de danse rock'n'roll. Ça avait failli se faire il y a un an et demi, deux ans. Et puis, en fait, j'avais pas quatre bras à l'époque. La radio me demandait encore trop de boulot. J'ai pas eu le temps. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, relancez-moi. Exigez un atelier de rock'n'roll et peut-être on pourrait se faire une session de 2 heures par semaine l'année prochaine. Moi, je ne serais pas totalement contre. Voilà. Et donc, pour préciser l'histoire de la danse, c'est que je suis le 5e enfant d'une famille de 7 et que ce sont mes frères et sœurs plus âgés qui m'ont appris. De cette époque de mon enfance, j'avais un certain nombre de passes de rock'n'roll, je dirais une douzaine, qui sont assez standards, je dirais. Il n'y avait pas de trucs particuliers. Je connaissais des passes qu'un certain nombre de gens peuvent connaître s'ils savent danser le rock'n'roll. Mais il s'est trouvé qu'il y a 2 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'aurais tendance à avoir une infusion divine, une descente d'en haut, en tout cas. Il y a des passes de rock'n'roll qui sont descendues et que j'ai commencé à faire et qui sont tout simplement hallucinantes. Hallucinantes. Je ne vois personne qui fait ce que je fais de nos jours. Elles sont incroyables. Et avec quelques demoiselles du Diwa ou d'ailleurs, on atteint des sommets en la matière. Je pense que si je participais à des concours, je pourrais tout simplement survoler les débats. Même l'année dernière, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, j'avais comme projet de devenir instantanément riche et célèbre. J'avais cherché 3 vidéastes pour faire une prestation avec une fille avec qui je danse super bien, Aurélie Prempart. Et on aurait, lors des vendredis de dit, dansé sur un des estrades vidéasté sur 3 angles différents avec 3 vidéastes. Et là, je l'aurais youtubisé et nous aurions été instantanément riches parce que c'est hallucinant. Enfin, ça, c'était mon ambition. Hélas pour moi, la semaine d'avant, j'ai dansé seul avec Sista Chance qui avait fait une prestation. Et après, j'avais été au cul dans l'herbe avant que la mairie ne le squeeze. Et un verre de trop, j'avais fait une cascade et j'avais sauté trop et j'étais tombé sur mon épaule et j'avais une entorse à l'épaule qui m'avait empêché de devenir mondialement
riche
célèbre.
Oui.
Enfin, riche, j'en sais rien, mais je m'étais dit, mon calcul c'était qu'une fois que j'aurais été mondialement célèbre, il aurait été difficile de continuer à être dans la précarité financière. Voilà. Enfin bref, la musique pour moi c'est essentiel. Et alors pour dire une dernière chose sur la musique, c'est que la fête de la caisse à savon a eu lieu samedi dernier, donc il y a 3-4 jours. Et après le groupe Les 4L Boys, j'ai mixé pendant 2 heures et apparemment ça a retourné encore tout le monde. Parce que il faut le dire, mon émission est terrible. Elle n'est pas toujours dansante, mais de ces, je sais pas, 250 émissions que j'ai pu faire depuis 2007, eh bien j'ai eu de quoi assurer une partie dansante très efficace. Et comme en plus je m'agite, je remue des bras frénétiquement à droite, à gauche, vers le sommet, en oblique, etc., tout en hurlant comme un beau diable. Et l'année dernière, en plus, j'avais un juste au corps de léopard du plus bel effet. Et bien donc, j'ai aussi cette capacité d'entraîner une salle qui commence à sauter frénétiquement jusqu'à apoplexie. Voilà, ça, c'est le chapitre musical.
Oui, je confirme. Et t'aurais envie, justement, de concrétiser quand même tous ces projets. T'as le médium de la radio pour faire part de la musique. Après, avec ce que tu nous as dit, des fêtes comme ça dans le Diwa. Mais il y a vraiment quelque chose, peut-être à transmettre, faire un groupe, faire des créations. Enfin, il y a beaucoup de... Je sens un être créatif derrière le micro et une sensibilité vraiment de création. Et justement, l'homme de la radio, c'est un côté. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui commence un petit peu à s'éclaircir ? Vers quoi t'as envie d'aller ?
En tout cas, rien que le fait de faire tourner la radio me demande beaucoup d'énergie. Maintenant, effectivement, il fut une époque, j'ai pas fait mon parcours, mais j'ai voyagé pendant 9 ans et au début, c'était pas forcément dans la joie en fait. J'ai subi quelques traumas et donc j'étais un SDF de luxe pendant un certain nombre d'années. Et à l'époque, dans mon désespoir, j'avais fait un pacte avec Dieu. J'avais lancé ça comme ça, du style « Dieu, tant que je ne serai pas chanteur, fais-moi tout rater ». Et voilà. Et peut-être m'a-t-il écouté parce que j'ai eu beaucoup de soucis d'insertion professionnelle pendant très longtemps, voire de précarité avancée. Et là, ça ne s'améliore que depuis cette histoire de radio. Sinon, j'ai fait des boulots à Mormoelneux pendant très longtemps. Ceci dit, il y a quelque chose qui m'arrête encore. Peut-être que je ne sais pas réclamer mon dû. Une notion qu'on appelle l'assertivité, l'affirmation de soi, sur lequel je pourrais encore progresser. Avec tous ces innombrables, excellents morceaux que j'ai pu écouter, je suis comme un bibliothécaire. Je me sens plutôt comme ça, un rat de bibliothèque, plutôt qu'un vrai créateur. D'autre part, je me suis quand même carbonisé à plusieurs reprises avec la musique et avec tout ce qui s'ensuit autour, pas forcément la musique, mais bon, si Sex and Drugs and Rock'n'Roll, quoi. Quelques reprises, et puis de façon un peu paroxystique, dire sans retenue, Donc je me suis un peu carbonisé à plusieurs reprises. Donc je dois faire attention quand même à ne pas aller trop fort, trop loin, car j'en paierai encore le prix. Donc il y a quelque chose qui m'arrête aussi dans cette vocation de chanteur, c'est que j'ai l'impression que ce sont des métiers à risque. Hein. Il y a souvent des gens qui vous tournent autour, il y a de la drogue, de l'alcool, il y a de l'excitation. Et pendant toute cette période de voyage et de difficultés dans la vie que j'ai eue de 1989 à 2009, hein, 20 ans de précarité avancée, sans savoir vraiment où je voulais en venir, je n'étais pas forcément suffisamment rassuré pour me lancer dans une carrière qui demande une estime de soi assez conséquente. Hein. Les chanteurs, ouais, il faut qu'ils aient confiance en eux parce que ils en ont besoin. Alors je suis d'accord avec toi, il y a même des soirées où je me laisse aller à chanter et j'ai une voix en plus. J'ai même, peut-être le sais-tu, d'autres cordes à mon arc comme la flûte manuelle. Oui. Mais il me manque l'estime de moi pour me lancer là-dedans vraiment. Je pense que nous avons tous un potentiel énorme, sauf qu'il n'est pas forcément actualisé et on a peut-être trop de soucis à gérer pour être vraiment opérationnel en fait. Il faut d'abord faire un travail sur soi pour être opérationnel et après, normalement, quoi qu'on fasse, ça se déroule naturellement. Bon, là, très honnêtement, la situation s'améliore pour moi, mais ça a été très difficile pendant très longtemps. Donc j'ai encore quelques reliquats d'insécurité qui ressurgissent de temps en temps, voire de stress, voire de fatigue. Et je ne sais même pas comment on fait pour créer une chanson. Et que dire en plus ? Une des raisons pour lesquelles je n'aime pas la musique française, c'est que je préfère la musique au texte. Moi, à la limite, le fait qu'on chante en anglais, ça me permet de ne pas m'apercevoir que ce qu'ils disent est ridicule, par exemple. En français, pour qu'un texte soit bon, à part quelques grands classiques, je trouve que de nos jours, il m'insupporte plutôt qu'autre chose quand même.
Voilà. Oui. Donc toi, ça serait plus plutôt aussi dans la musique et
ou des borborygmes,
ou du beatbox, ou enfin voilà, des choses comme ça quoi. Ouais. Après voilà, c'est vrai que toutes les choses aussi que t'as entendues toutes ces années et au cours de tes voyages, je crois qu'il y a le grand voyage, c'est l'Inde, me semble-t-il, où il y a eu aussi certainement plein de vibrations qui t'ont parcouru. Et voilà, va savoir, peut-être qu'un jour tu feras aussi avec tout ce que la vie t'a apporté et t'a mis au corps. Et après, sans forcément se comparer à ce qui s'est fait, parce que ce que tu vas faire, ce sera du Louis 100%, quoi, du pur, la quintessence certifiée, lui, le Louis. Et voilà, du coup, ce sera empreinte de ta vie à toi.
Ah, moi, j'ai un très, très bon modèle, un groupe qui me remonte le moral à chaque fois que j'ai un petit coup de mou. C'est le Buena Vista Social Club, qui, bon, eux, ils ont été musiciens toute leur vie, mais ils ont percé, mais alors au niveau mondial, hein, ça, c'était pas le petit perçage, hein, ils ont percé au niveau mondial à l'âge de 80 ans et des bananes. Donc moi, je te dis, j'arrive bien l'année prochaine à la cinquantaine, donc j'ai encore une trentaine d'années pour me décider à faire quelque chose, mais peut-être alors faudrait-il que je me fasse aider, peut-être en matière de voix, apprendre à maîtriser sa voix, voire en écriture de texte, parce que ça s'improvise pas forcément. Moi, je suis pas quelqu'un qui ait une confiance en soi d'entrée de jeu. Par contre, peut-être en apprenant comment faire avec des trucs, des gymniques, peut-être que ça serait plus facile. Mais je te remercie parce qu'effectivement, j'y pense depuis peu à complémenter. Parce que la radio, il y a un côté très statique. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informatique. Donc, je suis assis sur mon siège longtemps, souvent. Et récemment, cette année, j'ai eu même quelques contre-indications physiques, un mal au bassin, etc. Plus ma vue qui flanchait. Donc, je me disais qu'il était temps de faire autre chose pour dynamiser mon corps. Oui. Et donc effectivement, musique, chant, danse, les trois, plus un peu d'expressivité puisque j'adore le clown et que je suis un peu impertinent par ailleurs de temps en temps, donc le clown est bien dans l'impertinence. Et je peux avoir un bon contact avec les gens aussi. Donc tout ceci effectivement pourrait donner un cocktail détonnant si j'avais confiance en moi et si je n'avais plus autant de casseroles ou alors des casseroles supposées imaginaires qui par exemple une casserole qui n'est pas imaginaire, c'est qu'à la radio on n'est pas encore très bien payé, nous disposons de 952 € par mois. Faut savoir quand même que le seuil minimum de pauvreté en France est de 954 € pour un homme seul. Moi, j'ai deux enfants que j'ai la moitié du temps et pratiquement tous les mois, je dois pleurer à ma maman pour qu'elle m'aide à boucler la fin de mon mois. J'étais voir les assistantes sociales, m'ont dit « Ouais, à 950 €, vous gagnez trop, on ne peut rien pour vous. » Donc bref, je ne suis pas encore sorti de l'auberge, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, la radio non plus, hein. La radio, c'est pas gagné. Je ne vais pas tout vous dire, mais si quand même, allez, je vais tout vous le dire. Au mois de novembre, nous atteindrons un déficit de trésorerie de moins 20 000. Rien n'est gagné et il y a encore un peu de stress. Bon, je suis assez optimiste pour la radio. mais on n'est pas encore très bien payé et je suis encore stressé à un certain nombre de niveaux.
Oui, ça amène pas forcément après à penser et à se pencher sur soi, ses questions artistiques et d'épanouissement personnel. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais les choses continuent de toute façon à se passer, même si tes questions sont ailleurs pour l'instant et tes priorités sont ailleurs. Enfin, je te souhaite. Et pour revenir sur aussi ton projet, là, j'entends bien pour la radio et les difficultés qu'elle peut rencontrer. Et là, pour aller un peu plus retourner vraiment vers toi personnellement et tes projets, pour l'écriture de textes, le travail sur la voix et la danse, sache qu'il y a des belles perspectives qui s'ouvrent et on pourra en reparler si tu veux. Voilà, ça travaille sur des ateliers d'écriture, sur de la voix. Voilà, avec plaisir pour travailler ensemble, en reparler.
Ouais, tu sais aider quelqu'un à maîtriser sa voix, tu sais faire ça?
Je sais faire ça. Disons qu'il y a des explorations vocales que j'ai fait sur Grenoble pendant quelques années et la voix et l'interprétation de textes me parlent. C'est quelque chose que je travaille personnellement, voilà, avec aussi quelqu'un dans le Diwa. Donc voilà, c'est aussi à savoir. Je fais cette parenthèse pour aussi les auditeurs qui seraient peut-être intéressés pour ces écritures et puis pour cette voix, pour la danse primitive, pour des choses comme ça, de prendre peut-être aussi contact s'il y a des projets aussi qui se ressemblent, qui ressemblent aux tiens. Et là, ce qui me vient, donc tu as fait ton vœu à Dieu il y a quelques années. Est-ce que là, tu pourrais en émettre un autre qui casserait peut-être un petit peu, ça, si je ne suis pas chanteur, voilà, qui renouveler un peu, renouveler un vœu.
Alors là, je vais passer par une petite diversion. J'ai assisté à une conférence de Stéphanie Bédola-Dumas récemment, qui est chiropracticienne et qui fait un certain nombre de conférences sur ce qu'elle a pu apprendre grâce à cette technique. Et donc, grosso modo, c'est comment se servir de son cerveau, etc. Et donc, le fait est qu'elle parle de ce qu'elle appelle les autoroutes neuronaux, c'est-à-dire qu'on finit par mettre en place des habitudes comportementales dans tel ou tel type de situation. Je réagis comme ça. Et une des façons de se permettre d'évoluer, c'est de se visualiser dans ce que je veux devenir. Comme ça, ça pourra au moins, si ça se produit, ça réveillera un écho en moi et je pourrais aller dans ce sens. Il ne faut surtout pas se poser à cette époque, quand on se visualise, par exemple, en tant que chanteur, il ne faut pas se poser la question du comment je vais le devenir, parce que ça s'arrête tout de suite. Donc, une des questions qu'elle m'avait posées quand je l'avais vue, c'est quelle serait ta conception du bonheur ? Et j'avais été effectivement bien embarrassé de lui dire ce qu'était le bonheur pour moi, parce que, bah, grosso modo, je n'ai jamais été préparé à cela. J'étais plutôt conditionné à avoir des problèmes, en fait, originellement. Alors, heureusement, j'ai fait énormément de travail sur moi, hein, le nombre de thérapeutes, le nombre de milliers d'heures de méditation. Hein, j'ai failli être moine, j'ai travaillé avec des moines, j'ai pénétré 35 sectes différentes. Je fais du yoga en ce moment-là pour essayer d'aller mieux. Donc, j'étais pas préparé au bonheur. Et pour moi, le bonheur reste quelque chose d'assez abstrait. Et c'est pour ça qu'il faut que je me force, et c'est ce que je fais en ce moment, à me voir dans des situations plus auspicieuses, plus sympathiques, dans lesquelles je me permette d'évoluer. Donc, refaire un vœu, là, présentement, à Dieu, pour rompre le précédent contrat, eh bien, je sais même pas quoi demander, peut-être, tu vois. C'est bizarre, hein. Moi, je suis quelqu'un de très concret, c'est-à-dire 90% de ma carrière était dans le nettoyage industriel, ou nettoyage, où on se pose pas de questions, on se vide la tête avec un balai, avec une balai-brosse, mais on se permet pas de visualiser comment je veux devenir, sinon ça fait mal au cœur quand même, quand t'es en train de nettoyer des chiottes et tu te visualises comme chanteur, tu dis, ah non, il y a un tel hiatus entre les deux que tu te fais une déprime assez instantanément. Et puis les méditations que j'ai expérimentées ne sont pas à base de visualisation, donc ça c'est aussi un problème. Pour en revenir à un autre vœu que j'aimerais faire, un autre contrat avec le divin, effectivement, j'aimerais bien faire quelque chose avec la musique, l'expression corporelle, mais c'est un peu flou.
Oui. Mais c'est peut-être justement en le faisant, là, c'est toutes ces démarches-là, tu formes un vœu, mais dans le faire, et pas dans le vœu voilà, que tu vas peut-être exprimer avec des mots.
Oui.
C'est une autre façon maintenant de... Tu mets en route ton vœu toi-même aussi. C'est
et peut-être, puis peut-être en cheminant, se précisera-t-il.
Oui, oui. En tout cas, c'est très intéressant aussi de voir aussi ce processus, aussi ces mécanismes, cette structure psychique qui nous forme, et de voir que... Hop, on est parti dans un, comme on danse, on est parti pour faire un mouvement et on sait très bien que ça va amener vers peut-être de la colère, de la tristesse ou que ça va nous freiner ou qu'on va pas se sentir capable et tac, on va dévier et adopter un autre angle de vue, un autre mouvement. ça fout un peu les pétoches, hein. C'est le risque parce que ça on connaît pas. Mais voilà, d'y aller et de l'autre côté. Donc c'est vraiment aussi très intéressant de se positionner comme ça. Mais en tout cas, bah, ce vœu que t'es en train de former, tout bon à toi pour que il se forme, il se dessine petit à petit à ton image, à tes nouvelles aspirations. C'est très bon comme ça.
Oui, en fait, je voudrais juste dire quelque chose. Comme je vous disais, que j'avais fait beaucoup d'efforts thérapeutiques pour m'en sortir. Et donc, je me rappelle quand j'étais arrivé dans la Drôme en 1997, quasiment tout de suite, j'avais fait un stage de travail sur soi avec des exercices de relaxation, un état de modifié de conscience, avec des méditations profondes et de visualisation, etc. Et je me rappelle d'un exercice qui était assez amusant. Il avait été très parlant d'ailleurs. Il me parle toujours. Il fallait s'imaginer dans deux bulles. Une bulle, je suis heureux. Une bulle, je suis malheureux. Et dans la bulle où je suis malheureux, je suis en train de méditer pour savoir où est-ce que j'en suis, comment vais-je faire pour m'en sortir, où est le problème, est-ce que c'est parce que ma maman était méchante avec moi quand j'étais petit, et gna 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 gna, et on tourne en rond et on se pose des questions sans fin et ça ne fonctionne pas. Et donc là, j'étais gris, en train de m'introspectionner sans fond, sans fin. Et dans la bulle où j'étais heureux, alors carrément, j'étais dans une voiture décapotable de type américaine, gigantesque, dans la 5e avenue. Ça m'est venu comme ça, hein, c'est un flash. Hein, dans la 5e avenue, c'est l'avenue la plus chère du monde à New York. Et là, des milliers de personnes me jetaient des petits papiers à travers les fenêtres des icebergs. C'est le triomphe absolu. Si vous avez vu le Tintin en Amérique, c'est les dernières images de ce Tintin en Amérique. C'est ça, j'étais dans cette décapotable. Tout le monde me jette des petits papiers, le triomphe absolu. Et là, j'étais clown. Voilà. Et en fait, le fait est que j'ai failli être clown, hein. J'en ai fait pas mal du clown, dans les années 99, 98, 97, j'avais fait des stages à destination des professionnels, etc. Enfin, j'étais presque prêt. Et puis, j'ai eu deux enfants d'un coup et il a fallu que je sois très concret. Voilà. Oui. Et je regrette pas, hein. J'adore mes enfants et c'est un vrai cadeau du ciel. Mais je pouvais pas me permettre, sur le moment, en plus, j'étais déjà pas avec leur mère, de continuer à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire à vivre de très peu et aller à fond. Il a fallu que je me ralentisse, que je prenne en compte que deux petits êtres étaient arrivés sur cette terre et qu'il fallait que je m'en occupe. Et donc, j'ai recommencé à faire du nettoyage industriel à l'époque. Voilà, j'étais même le laveur de carreaux du Diwa pendant 2-3 ans. Quoi. Deux ans. Mais le clown n'est pas perdu et c'est vrai que de nos jours, si je devais faire un truc, ce serait carrément transdisciplinaire, global, total, quoi. Bien que je n'aime pas le rock humoristique. Hein, y a des groupes de rock'n'roll qui aiment bien mélanger le rock et l'humour. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, le rock, c'est d'abord saignant. C'est des ménages. Ça pulse, quoi. C'est pas je suis là pour vous faire rire. Non. Le rock, c'est, je dirais pas que c'est une chose très sérieuse pour être confié aux humoristes, mais en tout cas, j'aime pas trop Raoul Petit ou je sais pas qui, les groupes, comment ils s'appellent, Chanson plus bifluorée, ça m'horripile. Enfin, c'est des gens qui font du rock and roll humoristique, c'est pas mon truc. Voilà.
Encore Raoul Petit, je le mettrais pas dans cette case-là, mais c'est plutôt punk rock.
Ils ont essayé d'être drôles des fois, non? Ils ont jamais essayé d'être drôles?
Si, mais je veux dire, c'est pas de l'ordre du clown, quoi. C'est
non.
Pour moi. Enfin, oui, voilà. Oui. Bon, après c'est un débat qui a pas maintenant, mais oui. Et j'aimerais clore, s'il te plaît, avec un petit morceau de flûte manuelle que tu pourrais nous offrir.
Ah oui. Alors je l'introduis un petit peu pour dire d'où ça vient. Oui. Bon, alors ça, c'est un truc que je pratique depuis très longtemps, hein, mais disons que dans cette période de voyage, il m'est arrivé deux choses. Donc, j'ai voyagé du 14 juillet 1989, le bicentenaire de la Révolution, jusqu'en 1997, quand je suis arrivé dans le Diwa. Et donc, deux choses me sont venues de cette période où j'étais en dehors de toute routine, de toute structure, de tout boulot et de toute compagnie, en fait. Et donc, le dessin. Hein, j'ai commencé à dessiner, alors vraiment ex nihilo, hein, je ne savais pas dessiner du tout. Et la flûte manuelle, là j'ai commencé à pratiquer. Le dessin, j'étais assez loin puisque j'ai fait des expositions qui ont eu pas mal de succès. Il fut une époque dans les années, même chose, hein, 1999, 2000, tout ça. J'ai obliqué vers le design textile où j'ai failli percer puisque j'avais été retenu par un cabinet de dessin à Lyon qui prenait mes dessins, qui les vendait partout dans le monde. J'en ai vendu en Italie, en Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis. Enfin, ça a failli marcher. Et toujours la même chose, j'ai eu deux enfants d'un coup et ça marchait pas suffisamment pour que, voilà. Et donc la flûte manuelle, ben ça c'est un truc que j'ai développé, ça c'est un excellent petit instrument qui est toujours avec soi. Il est pas très fiable, il dépend beaucoup de mon état et de l'hygrométrie. S'il fait froid et sec, ça ne marche quasiment pas. S'il fait chaud et lourd et humide, ça marche de mieux en mieux, voilà. Donc là, ce que je peux me permettre de vous faire, c'est peut-être un hymne national. l'hymne national de l'Irlande, par exemple.
D'accord, allons-y.
Et ça s'appelle Amazing Grace, une grâce stupéfiante.
Une grâce stupéfiante par Louis à la flûte manuelle.
Alors, là, peut-être que faut que je voie un petit peu avec le truc. Alors, je ne sais pas si c'était très juste. Hein. Si
ça m'a paru juste, en
ça
tout cas.
Ça t'a paru juste,
oui,
ouais.
Oui, oui.
C'est pas toujours
voilà,
très
dans les
juste.
Voilà, comme ça. Ouais, ouais, oui. Bah, merci, Louis. Juste ses doigts et son souffle de vie qui nous a donné ces notes-là, cette mélodie.
Oui, alors, c'est vrai, tu fais bien de le préciser parce qu'il n'y a pas de flûte. Hein.
Oui,
il y a juste mes mains comme les gens qui font le coucou. Quoi. Hein.
Ouais, ouais. C'est très beau en plus. T'es indépendant, autonome. Tu l'emmènes partout.
Toujours prêt.
Toujours prêt.
Oui, mais je te dis...
Sauf le climat, enfin la météo. Qui
et puis mon état, si je suis de mauvaise humeur, ça marche pas très bien non plus. Voilà.
C'est d'après, ça donne d'autres mélodies.
Et ça peut être très faux, tout simplement, j'y arrive pas. Quoi.
Ouais. Peut-être un thermostat aussi de tempérament.
Ouais,
ça prend la température de ton tempérament, peut-être, par le souffle. À savoir. Bah, merci Louis en tout cas.
Bah, c'est moi qui te remercie. En fait, tu devrais peut-être te mettre à faire des interviews parce que je trouve que tu l'as fait d'une façon très fluide, très naturelle, très décontractée et très valorisante pour ton interview. Et moi, je me suis senti soutenu et valorisé, ce qui est l'essence même de la compétence de l'intervieweur. Donc, tu es la bienvenue pour faire des interviews sur RD Watt, sache-le.
Merci Louis. Bah, en tout cas aussi pour moi, c'était un chouette moment, un échange bien fluide, bien. Je me suis sentie aussi très bien parce que c'est important. Peut-être aussi que l'interviewé peut mettre mal à l'aise l'intervieweur. Là, c'était tout bon.
Et j'ai pas trop péroré, etc. Non.
Péroré, c'est.
Tu sais, la péroraison, tu sais pas ce que c'est.
Non.
Une péroraison, c'est les gens qui parlent, qui sont heureux de s'entendre parler. Ils s'entendent eux-mêmes, ils s'en foutent qu'on les écoute, mais c'est un besoin pathologique, quoi.
Bon, on en parlera peut-être hors micro.
Alors, tu veux même que j'enlève cette question qui était un petit peu auto-dévalorisante, peut-être.
Oh bah, c'est pas dévalorisant de pas savoir. Ah, maintenant, quoi. Je sais, ça me valorise. Je pourrais le ressortir. Très bien. Eh ben, merci. Au revoir à tous. Donc, on était sur Radio Diwa, 107.5 FM, www.rdiwa.fr. À bientôt. Au revoir.
Merci, Gis. Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.